Maintenant, je vais donc présenter la conférencière de ce soir, Monique Schneider. Monique Schneider est psychanalyste, elle est directrice de recherche au CNRS. Pour ce qui est de son parcours, elle est agrégée de philosophie. Elle a été professeure de philosophie au lycée, notamment au lycée Stendhal de Grenoble à partir de 1958. À partir de 1965, elle a été nommée comme assistante puis maître assistante à la faculté des lettres de Grenoble. En 1970, elle a été attachée de recherche au CNRS. En 1980, elle est devenue docteur d'état en philosophie avec le titre de sa thèse s'intitulant « La réflexion émotionnelle ». Et à partir de l'an 2000, elle est devenue directrice de recherche émérite au CNRS. Monique Schneider est spécialiste de la souffrance psychique. Elle a travaillé sur les questions de la filiation et du trauma, sur l'inceste, sur la question fraternelle et sur l'altérité, et sur la figure de l'étranger. Elle a publié de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales et internationales. Elle a également publié de nombreux ouvrages, j'en citerai un certain nombre, dans ceux qui sont disponibles, Don Juan et le procès de la séduction, publié chez Aubier en 1994, et deux ouvrages plus précisément sur lesquels elle axera aujourd'hui sa conférence de ce soir, à savoir « Père, ne vois-tu pas ?», sous-titré « Le père, le maître, le spectre dans l'interprétation des rêves », publié en 1985 chez De Noël, et « Généalogie du masculin », son dernier ouvrage, publié chez Aubier en l'an 2000. Voilà. Monique Schneider, je vous cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi suivra un débat avec le public d'une vingtaine de minutes. Je vous remercie.
Bon, je vous remercie également pour cette invitation. Alors, ce titre, La souffrance psychique, m'a été proposé. Alors, en fait, pour essayer de délimiter la souffrance psychique, est-ce que cela suppose qu'il y aurait une dualité dans les modalités de la souffrance, une souffrance éprouvée dans le corps, la souffrance physique, et puis une souffrance qui concernerait essentiellement la psyché. Alors, en fait, on ne peut pas établir de coupure absolue entre ces deux modalités de souffrance. Parce qu'il est certain que la souffrance physique engendre également une souffrance psychique. Et dans le texte sur lequel je m'appuierai beaucoup, dans l'interprétation des rêves, qui est un texte initiatique, il y aura de nombreux exemples, au fond, de souffrances physiques qui permettent de mieux comprendre les stratégies propres à la souffrance psychique. Donc, il y aura à la fois discontinuité et chevauchement entre ces deux modalités de souffrance. Alors, pourtant, il n'y a pas parallélisme absolu entre souffrance physique et souffrance psychique, parce qu'une des difficultés d'accès pour approfondir, spécifier, étudier la souffrance psychique, c'est que très souvent, la dimension qui se trouve gommée dans la souffrance psychique, c'est précisément le vécu intime convaincu de souffrance. Si bien que c'est assez paradoxal. Le propre de la souffrance psychique est très souvent de provoquer l'équivalent d'un phénomène d'anesthésie. C'est-à-dire que la souffrance psychique ne va pas se montrer, se dire et se saisir d'une manière automatique. Très souvent, il y aura précisément souffrance psychique, comme dans la dépression, avec comme symptôme fondamental l'impossibilité à éprouver soi-même ce qui fait mal, le sentiment d'être comme à côté. Et je pense à la remarque d'une femme qui était dans un état de dépression profonde et qui dit « si seulement je pouvais avoir des pensées, même tristes ». Donc il y avait comme un désir de se sentir triste et d'éprouver sa souffrance, même pour être sûr d'être dans sa peau, enfin que vient d'être sûr en même temps d'être compris, de pouvoir communiquer. Alors je pense que c'est un des phénomènes les plus difficiles à comprendre, si vous voulez, dans la souffrance psychique, de voir qu'elle travaille à partir de phénomènes de fuite de soi, de tentatives d'extinction, ou on verra de délocalisation. Alors, pour indiquer tout de même un des axes fondamentaux de la réflexion que je mènerai ce soir, c'est que ces phénomènes de délocalisation, où il faut qu'il y ait un malaise, mais qui va être éprouvé ailleurs, mais ces phénomènes de délocalisation prennent souvent le corps comme théâtre. Donc il peut y avoir une souffrance psychique virtuelle fondamentale qui ne s'éprouve pas véritablement au niveau du psychisme et qui se traduise, comme on dira, par divers maux corporels. Alors, pour suivre les cheminements au fond de la souffrance psychique, je ne vais pas présenter d'exposé exhaustif, parce qu'il faudrait faire un traité de psychopathologie générale. Enfin, toute la psychiatrie repose sur les tentatives pour voir les reconversions, les négociations, les diverses fuites, enfin, la dynamique de la souffrance psychique. Ce serait de la psychiatrie, ce serait très dur d'en parler en 50 minutes. Je vais précisément avoir un mode d'approche plus psychanalytique, c'est-à-dire qui s'intéresse à la diversité des démarches, je veux dire à la singularité des démarches, donc au parcours. Alors, ce faisant, nous ne pourrons pas envisager tous les parcours possibles. Nous nous contenterons de sélectionner, au fond, certaines pistes. Et dans cette tentative, je m'appuierai beaucoup sur le texte de Freud en le retravaillant à partir des auteurs qui ont réfléchi à nouveau sur ce problème, essentiellement Ferenczi. Parce que l'intérêt du texte de Freud dans l'interprétation des rêves, c'est de montrer précisément la jonction entre des phénomènes de difficultés psychiques, de malaise, d'éprouver d'une limite, d'éprouver un sentiment d'impossibilité, comme si quelque chose ne pouvait pas être vrai, on ne pouvait pas y croire. Et puis, comment ce malaise, cette impression de désorientation et de refus, va pouvoir, dans certains cas, se traduire dans le corps. Alors, ce qu'on essaiera de voir dans cette séance, je veux dire, dans cette soirée, c'est de voir que la souffrance psychique ne va pas nécessairement se traduire dans le corps de celui qui souffre ou de celle qui souffre au point de départ. Et c'est un phénomène extrêmement étrange. La souffrance psychique est au plus haut point transférentielle ou voyageuse. Voyez, elle a besoin du lien, elle est un appel au lien. Alors, elle va s'adresser à l'autre, soit comme destinataire, comme sauveur, c'est entre autres la souffrance qui va conduire au transfert. Vous voyez, ça n'est pas un hasard si le phénomène de transfert a précisément été étudié à partir de la souffrance psychique, mais aussi bien de la souffrance physique. Il y a aussi un transfert sur le médecin, même s'il n'est pas psychiatre ou psychanalyste. Tout se passe comme si la souffrance psychique ne pouvait pas, au départ, habiter là où elle se manifeste, comme si elle avait besoin de se nier, de fuir, d'aller ailleurs. Alors, on va essayer de saisir justement ce phénomène, au fond, de la souffrance, enfin, qui ne va pas de soi, et j'essaierai de commencer par une sorte de paradoxe, parler peut-être d'un travail de la souffrance, montrant que la souffrance ou physique ou psychique ne s'impose pas telle qu'elle, ne se dévoile pas, ne montre pas nécessairement son visage. Comment il y a déjà des tentatives, sur le plan physique comme sur le plan psychique, pour se dissimuler. Alors, il est intéressant au départ de noter le niveau où la souffrance se manifeste. Et je m'appuierai sur des travaux déjà anciens pour indiquer simplement un point de départ, les travaux de Leurige qui ont été repris par Canguilhem et qui donnent une indication assez intéressante. C'est-à-dire dans l'hypothèse d'un circuit sensorimoteur où on éprouve donc déjà quelque chose et puis on réagit, ça n'est pas justement au niveau réceptif sensoriel que la souffrance se localise. Qu'il y aurait souffrance, non pas d'emblée dans ce qui aurait reçu, dans l'impression sur nous de l'événement, mais dans la réaction à l'événement, ou dans la réaction à la blessure du corps ou à l'événement psychique, est dans une réaction qui prend la forme du refus. Alors, c'est ce qui fait que des cultures non occidentales vont pouvoir agir sur la souffrance, ou physique ou psychique, en essayant d'entraver les réactions de refus. Alors, qu'il s'agisse du stoïcisme dans l'Antiquité, qui est bien une position, je dirais, occidentale, mais qu'il s'agisse de techniques orientales ou extrêmes orientales, il est très important de voir que s'il y a une tentative de diminution de l'attente, de diminution de la tension, si on se met dans un état de distance ou d'acceptation vis-à-vis de soi-même, il y a des réactions de souffrance physique et aussi de souffrance psychique pourront être annulées à la base. Alors, est-ce que c'est toujours désirable ? Ça, je ne le sais pas, ça n'est pas la question fondamentale que je poserai, mais c'est très important tout de même de voir le niveau où se situe la souffrance, et ce qui rend d'ailleurs difficile le fait de communiquer la souffrance. La souffrance n'est pas nécessairement directement dans ce qui nous arrive, même si elle est vécue comme ayant trait à ce qui nous arrive, mais dans la façon dont elle va être décodée, reçue, analysée et exprimée, renvoyée. Alors, je commencerai par un premier exemple où j'emprunterai, je donnerai quelques citations tirées d'un livre de Françoise Dolto, Au jeu du désir, où elle va parler de certaines situations vécues par des enfants qui ont subi des maltraitances graves. On pourrait penser que les enfants qui ont subi des maltraitances graves viennent en apportant une souffrance qui est intense. Or, le paradoxe, c'est précisément que des enfants qui ont vécu des expériences assez insoutenables, des expériences de maltraitance ou d'inceste ou de violence, se présentent en exhibant tout autre chose qu'une intensité de souffrance. Alors, elle va donner, je préfère vous donner les quelques citations d'emblée. Elle parle d'une enfant qui a été confiée, une enfant qui a perdu ses parents, orpheline, confiée à des parents nourriciers indignes. Les nourrissons mouraient, il y a eu plainte dans le voisinage. Elle parle d'une enfant, Nicole. Nicole fut alors trouvée dans un état de dénutrition grave, couverte de vermine, à peine vêtue. Quant à son petit frère, il mangeait ses excréments et était accroché par une corde à la niche du chien. Alors, comment se présente-t-elle ? Bien, Françoise Dolto dit, elle se présente comme une enfant mutique. Donc, il n'y a pas d'appel au secours, apparemment. C'est comme une enfant rendue étrangère à ce qu'elle a vécu. Donc, il n'y a pas de mise en avant d'une souffrance. Elle dit, elle ne dit qu'une syllabe par mot. Entre autres, elle boit l'huile de la machine à coudre, se montre méchante avec les enfants, alors uniquement câline avec son père adoptif. Donc, il n'y a presque pas de manifestation affective, ni de plaisir, ni de douleur, comme s'il y avait une sorte de vécu d'insensibilité, et c'est ce qui donne une impression de débilité mentale, comme si, justement, dans l'impossibilité à enregistrer le malaise ou la souffrance, il y avait une sorte de mise en congé du psychisme, d'extinction du psychisme. Et ce sera le grand problème rencontré. Vous voyez, comment garder vivant le psychisme quand il y a souffrance. Alors, François Dolto donne un autre exemple, où, parlant même d'une souffrance physique chez cette même enfant, et d'une souffrance physique qui ne sera même pas éprouvée. Elle s'est un jour blessée au coude, pleine de sang, avec une plaie très profonde. L'enfant ne s'est pas plainte. C'est la mère qui l'a découverte dans cet état. Au cours des soins médicaux qui ont suivi, la blessure ayant nécessité quelques points de suture, l'enfant a continué à minauder, avec cette expression que je lui vois encore aujourd'hui à la consultation, un sourire stéréotypé, ne traduisant rien, si ce n'est de l'angoisse. Une autre fois, elle a mis son pied dans la baignoire où l'eau bouillante venait d'être versée, avant que la maman rajoute l'eau froide. Bien qu'atteinte d'une brûlure du second degré, dont la mère s'aperçut, l'enfant n'a manifesté aucune douleur. Et dans son langage, a nié avoir mis le pied dans l'eau. Donc on voit qu'il ne suffit pas de dire que la souffrance psychique essaie de se nier ou de s'éteindre et de penser que la souffrance physique s'imposerait avec une plus grande nécessité. On voit que c'est peut-être le propre de la souffrance de contraindre un peu le sujet qui l'éprouve à fuir dans un ailleurs, à n'être pas là, à déshabiter son corps d'une part et son psychisme. Alors, c'est un phénomène qu'on rencontre assez couramment dans la clinique psychanalytique, et très souvent, ce sont les personnes qui paraissent le plus abîmées ou le plus atteintes, les personnes dont on attendrait justement le récit des difficultés dans la vie, le récit des souffrances, et en particulier de tout ce qui a été vécu dans l'enfance, qui font état d'une enfance totalement banale. C'est ce qu'ils ont éprouvé. La mère pouvait ne pas être là, elle pouvait être à l'asile, on l'a vue folle. Bon, les enfants disent qu'ils revenaient, qu'ils repartaient, mais qu'il n'y avait pas de quoi dramatiser. Alors, sans qu'il y ait toujours un cas extrêmement sidérant, très souvent, justement, la réaction de souffrance va changer de camp. Parce que quand on écoute des récits où une vie a été extrêmement abîmée, la réaction de sensibilité, elle habite plutôt la personne de l'analyste, la personne qui écoute, en se disant, enfin, ou c'est trop dur, ou c'est impossible. Et quelquefois, ça provoque plutôt, quand on est en face à face, une sorte de sourire ou d'incrédulité, comme si les gens étaient étonnés que ce qu'ils ont vécu puisse émouvoir quelqu'un. Comme s'il y avait une dramatisation, esquissée, même ébauchée, là où apparemment de l'autre côté, on s'exerçait de faire comme si tout était normal, banal, comme s'il fallait se garder d'amplifier le vécu de souffrance. Donc on ne peut pas en faire une règle générale, parce qu'il y en a qui viennent en mettant en avant la souffrance. Ça n'est pas du tout une nécessité, ça n'est pas parce que la souffrance est plus grande qu'on peut la mettre en avant. D'une certaine manière, on peut penser que pouvoir mettre en avant sa souffrance, surtout psychique, dans certains cas paraît presque un luxe, parce qu'il faut avoir pu enregistrer cette souffrance, il faut avoir pu l'accepter, l'élaborer, se l'avouer à soi-même, disons la porter. Alors, dans une vie qui est, où il y a des épisodes normaux, d'une certaine banalité, des moments de bonheur, et ce qui est assez étonnant aussi, c'est de voir que là où apparemment dans l'histoire il y a des événements plus pénibles, ou des corrections trop fortes, ou des deuils, alors, on aura envie évidemment que la souffrance soit ressaisie, et c'est là que très souvent il y a des phénomènes, on peut dire, d'amnésie partielle. Là il y a des trous dans l'histoire. Et quelquefois on peut repérer la raison de ces trous parce que même ceux qui ne peuvent pas parler de certains moments pénibles ou de certains moments de vécu de guerre, où il y a des souvenirs concernant avant la guerre, il n'y a plus de souvenirs, ou très peu, pendant la guerre. Alors, quand il y a des difficultés ou des épreuves plutôt familiales, banales, quelquefois elles ne sont retrouvées que parce que celui qui essaie d'en parler en a parlé aussi à ses frères et sœurs. Et quelquefois, c'est dans la fratrie, dans les frères et sœurs, que les autres se souviennent de tels moments de douleur. Pour les mauvais traitements, c'est assez régulier. Quand elle a été battue violemment, c'est en général les frères et sœurs qui le disent. Alors, là encore, ça n'est pas une règle générale, mais dans de nombreuses analyses, c'est un phénomène assez fréquent. Comme si, en face justement de l'approche de la douleur, il y avait un phénomène de coupure, de retrait, de désirer n'en rien savoir. Alors, c'est un des premiers phénomènes rencontrés par Freud. Et c'est précisément ce phénomène qui conduira Freud à forger l'hypothèse du refoulement. Parce que Freud fera remarquer, justement, et ça me semble intéressant, enfin, qu'il n'y a rien d'automatique dans l'enregistrement d'un souvenir. Il dit « Nul ne fait travailler sans bon motif sa mémoire ». Autrement dit, si on n'a pas de raison de garder précieusement un événement, d'en conserver la trace, de l'inscrire, bien, on essaie de fuir. Donc, ce qui fera comprendre, je veux dire, le caractère tout à fait inégal des mémoires est le fait que certains souvenirs, justement, disparaissent. Alors, est-ce que les souvenirs douloureux disparaissent automatiquement? Ce n'est pas certain. Freud va supposer différents niveaux dans les réactions psychiques pour montrer qu'il y a un premier niveau pour lequel il y a une fuite automatique de la souffrance, donc où il y a non-inscription de la souffrance psychique. C'est-à-dire, la fuite qui se produit automatiquement et régulièrement devant le processus psychique, en quoi consiste le souvenir de ce qui a été jadis pénible, nous donne le modèle et le premier exemple du refoulement psychique. Donc Freud là parle de fuite, d'oubli, on n'en veut rien savoir, voyez, on passe à autre chose. Alors, s'il n'y avait que ce niveau de réaction, on ne pourrait pas se souvenir des expériences malheureuses, donc on recommencerait toujours les mêmes expériences. Donc il faut qu'un autre type de processus se mette en place, Freud dira c'est le processus secondaire, pour tenter d'inscrire les phénomènes douloureux. Mais vous voyez, pour inscrire les phénomènes douloureux, c'est comme s'il fallait aller à contre-courant d'une première tendance psychique, qui serait la fuite. Alors, il est certain que ces phénomènes douloureux, ces moments douloureux, vont pouvoir s'inscrire, pas uniquement parce qu'ils ont été vécus, mais en général, ils vont pouvoir s'inscrire s'ils s'accompagnent de la représentation d'un destinataire à qui ils pourront être transmis. Et c'est cette structure qui est fondamentale dans la souffrance psychique. On ne peut pas isoler ce qui est vécu par un psychisme seul, par un individu. À la limite, il y aurait nécessairement extinction. On en resterait certainement au processus primaire, comme dit Freud, à la fuite, s'il n'y avait pas l'espoir qu'un autre va être alerté, va être informé, qu'il y aura un destinataire qui pourra recevoir la plainte. Bon, la souffrance psychique ne pourrait se vivre qu'en s'élaborant comme plainte adressée à un destinataire. Et de ce point de vue-là, on peut définir le psychisme à partir de la racine du mot conscience, même si tout n'est pas conscient, ça veut dire être sachant avec. S'il n'y a pas d'accompagnement, bien des phénomènes psychiques seront avortés. Donc ce qui constituera la psyché, ça n'est pas uniquement le fait d'être traversé par des expériences, mais d'être construite à partir d'un dispositif de langage, d'adresse à quelqu'un d'autre, à qui ce qui est éprouvé sera communiqué. Ce qui m'avait fait travailler sur la réflexion émotionnelle, c'est que j'avais eu le sentiment que bien des affects, ou de douleur, ou de joie, étaient éprouvés comme par un phénomène de réverbération. Il naissait au moment de l'écho, à condition qu'il soit renvoyé ou par un autre à qui ils sont confiés. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit attentif. C'est la première fonction que Freud attribue à l'autre, qu'il soit père ou mère. C'est l'attention à ce qui peut être éprouvé par l'enfant. Et même très souvent, le cri ne voudra pas forcément dire qu'il y a souffrance ou physique ou psychique. On va réagir au malaise apparent, et c'est à partir de la réaction, donc à partir d'un phénomène d'écho, que le nourrisson, si vous voulez, va traduire son malaise en sentiment de manque de présence, de manque de nutrition, de douleur. Donc il y aura une foule de traductions possibles, et ces traductions viendront du lieu de l'autre, de cet accompagnement, de celui qui est Freud dit Nebenmensch, qui est là à côté. Alors, c'est important de voir que le psychisme en général ne peut pas fonctionner s'il n'a pas intériorisé cette présence de quelqu'un qui est là à côté. Même si l'autre n'est plus là tout le temps, le phénomène alors de la souffrance psychique ne pourra naître, ne pourra apparaître et s'éprouver que s'il s'éprouve au niveau de la jonction entre, disons, le sujet et le destinataire. Et dans les moments, c'est ce qui arrive dans des moments de deuil imprévu, quand le destinataire s'éclipse, quand on a l'impression que la personne qui est là comme témoin de notre vie n'est plus là, il y a un phénomène plus grave que la souffrance psychique qui s'instaure, c'est comme un phénomène de sidération. C'est comme si on vivait comme exilé de soi-même. Donc, vous voyez, ce phénomène de souffrance psychique, on voit comment des personnes qui ont traversé des situations impossibles, je veux dire, peuvent perdre la possibilité de souffrir. Parce qu'il n'y a cette possibilité de souffrance psychique que s'il y a accompagnement de soi-même. Que si on est en même temps un peu ange gardien de soi-même ou témoin de soi-même, et cette possibilité d'être témoin de soi-même, ça n'est rendu possible dès l'enfance que si on a rencontré quelqu'un occupant cette place. Donc, souffrir, c'est non seulement avoir mal, mais c'est postuler une écoute. Alors, c'est précisément ce postulat d'une écoute qui manquera dans les phénomènes de dépression. Alors, ça n'est pas sur la dépression que je me centrerai, bien qu'on voit d'emblée quelle est la possibilité de jonction, justement, entre une souffrance possible, virtuelle, à laquelle on ne peut pas être présent, et le vécu de dépression. Je vais m'appuyer sur une expérience qui traverse toute l'interprétation des rêves. Dans Père ne vois-tu pas, je t'ai appuyé là-dessus, mais j'avais repris en même temps certaines observations faites par Viviane Forrester dans La violence du calme, dans certains passages où elle dit comment elle a lu l'interprétation des rêves, et il y a là quelque chose qui peut être prolongé d'un point de vue analytique. Alors, il me semble que l'interprétation des rêves est traversée par une expérience de souffrance, disons par un trauma qui a été à la fois marqué par une grande frayeur, en même temps par une douleur, il y a une chute corporelle, blessure, hémorragie, et ainsi de suite. Or, on peut travailler l'ensemble du texte et les rêves de Freud, justement, en essayant de capter, j'ai envie de dire, toute la circulation de la souffrance. Vous voyez, l'intérêt de rester dans une sorte de monographie, là, ce sera de ne pas se contenter de généralité sur le vécu de la souffrance psychique, mais de voir comment la souffrance physique, d'abord, disparaît dans l'éprouvé du lieu où elle s'est constituée pour migrer, en quelque sorte, trouver d'autres phénomènes. Alors, je vais partir d'un rêve dont parle Freud, mais qui n'est pas un rêve de Freud, qui est le rêve d'une de ses patientes, rêve tout à fait étonnant, parce qu'on a le sentiment que c'est un rêve qui exprime quelque chose de la douleur de Freud, en le mettant en connexion avec ce qui avait été traversé par Freud lui-même. Alors, je vais citer ce rêve, je vais reprendre, il est dans l'interprétation des rêves. Il me paraît extrêmement intéressant, je dis tout de suite avec quelle hypothèse, si vous voulez, je vais le travailler. Freud a parlé dans le rêve de perception, il dit endopsychique, comme s'il y avait dans le rêve, ou bien dans certains processus psychiques, la possibilité d'avoir une représentation de ce qui se passe dans le psychisme, comme si le premier psychologue, c'était le psychisme, qui présente des rêves comme ce rêve étrange et pénétrant. Pontalis fait remarquer que le rêve, l'expression poétique peut valoir pour bien des rêves, qu'il y a quelque chose de pénétrant, donc d'intelligent dans le rêve, comme si le rêve était un effort fait pour se situer même par rapport à soi-même, pour se rendre compte de ce qui est arrivé. Alors voici ce qu'apparaît avec cette malade. Une de mes patientes, qui avait dû subir une opération à la mâchoire, donc une douleur physique, devait, selon le désir des médecins, porter jour et nuit au niveau de sa joue malade un appareil réfrigérant. Mais elle avait l'habitude de le lancer au loin dès qu'elle était endormie. Un jour, on me pria de lui adresser des reproches à ce sujet. Elle avait de nouveau jeté cet appareil sur le sol. Alors, ce qui est intéressant au départ, je continuerai là après, c'est de voir la réaction motrice à la douleur, jeter. Quelque chose qui ne peut pas rester dans la bouche. Alors, c'est certainement la douleur qui est vécue comme ne pouvant pas habiter la bouche, faute de pouvoir jeter la douleur par terre. C'est l'appareil qui est dans la proximité avec la douleur qui sera jeté. Mais se jeter au loin, cette tentative pour se débarrasser, si vous voulez, sera symptomatique justement des réactions de la douleur. Dans la douleur intense, on voit aussi cette tentative pour tourner la tête, comme s'il fallait, comme si le corps essayait de se fuir lui-même. Comme si, comme il y a certaines expressions, je ne veux plus de moi. il y a une sorte de perte de la capacité de s'adopter soi-même. Alors après cet acte où elle a jeté l'appareil sur le sol, justement, on demande à Freud de lui faire la leçon, quelque sorte. Bon. La malade me répondit, cette fois je n'y peux vraiment rien. C'était l'effet d'un rêve où j'étais dans une loge à l'opéra et je m'intéressais vivement à la représentation. Mais à la clinique, M. Karl Mayer était couché et gémissait atrocement à cause de douleurs à la mâchoire. J'ai dit que puisque moi je ne souffrais pas, je n'avais pas besoin d'appareil. C'est pourquoi je l'ai jeté au loin. Alors Freud commente, M. Karl Mayer, à qui la dormeuse attribuait ses propres douleurs, était de tous les jeunes gens dont elle pouvait se rappeler celui qui lui était le plus indifférent. Donc le rêve en lui-même me paraît tout à fait étonnant, vous voyez, et on voit comment le travail psychique ne vient pas, comme c'est très souvent une illusion en analyse, ne vient pas redoubler ce qui se passe dans la réalité. Vous voyez, le rêve n'est pas la reproduction, la transcription de ce qui se passe dans la réalité, mais une sorte de négation fondamentale, puisque moi je ne souffre pas. Comme si le rêve, en tant que réalisation de désir, voyez, allait jusqu'au bout de cette tentative dans la souffrance de ne plus s'habiter soi-même, ou même d'éjecter le contenu de soi, le contenu du corps, le contenu du psychisme. Alors le rêve va transformer complètement la scène où la douleur à la mâchoire va être vécue en rêve comme la douleur qui atteint quelqu'un d'autre, qui gémit atrocement. Curieusement, dans la traduction française, je le dis tout de suite, mais on comprendra plus tard, la traduction française n'a pas respecté l'idée de douleur à la mâchoire, alors que la patiente a subi une opération à la mâchoire. Peut-être parce que les héritiers savent que Freud a subi de terribles douleurs à la mâchoire à la fin de sa vie, puisqu'il y a eu ce cancer à la mâchoire. Donc il y a un effet de miroir possible, et la traduction française dit que quelqu'un se plaint à cause de terribles maux de tête, ce qui rend incompréhensible le phénomène de l'éjection et de la douleur. Parce qu'il faut que ce soit le lieu de douleur, la douleur à la mâchoire, qui soit précisément comme éjectée, transférée en direction de quelqu'un d'autre. Alors, le fait que pendant ce moment de rêve, la patiente se voit à la représentation, c'est très étonnant, vous voyez. Parce que, enfin, il y a en même temps une justesse psychologique, c'est stupéfiant, parce que quand Freud définira le refoulement, il le définira précisément comme séparation entre l'affect, l'éprouvé, que ce soit de joie ou de douleur, et la représentation. Donc, sous l'influence de la douleur, le psychisme va se couper, en quelque sorte, pour se réfugier dans une position visuelle, pour se représenter quelque chose. Et on comprendra qu'un des refuges contre la douleur physique ou contre la douleur psychique, ce sera de mettre dans un ailleurs, par exemple dans une lecture, dans un film, dans une musique, ou bien voir quelqu'un, de mettre ailleurs, voyez, l'intolérable, et d'élaborer un rapport de connaissance. Donc la douleur physique ou psychique peut attiser justement une sorte de fuite dans la représentation, dans la connaissance, intensifier le jeu psychique représentatif pour fuir le niveau de l'éprouvé. Alors, dans cette analyse, vous voyez, de la réaction à la douleur psychique ou à la souffrance comme séparation avec soi-même, on retrouve tout à fait ce que Ferenczi, qui est un disciple de Freud, va analyser concernant le trauma. Il va définir précisément le trauma comme créant un phénomène de clivage. Il parlera de l'autoclivage narcissique et le comparera à un phénomène auquel se livrent les animaux qui, dans un cas de danger, par exemple, un animal dont la patte est prise au piège pourra sectionner la patte prise au piège pour s'enfuir avec un corps amputé. Mais en face de l'impossible, il y a tentative de survie avec acceptation d'une mutilation. C'est ce que Ferenczi appelle autotomie. Se mutiler soi-même pour survivre d'une manière diminuée. Bien, ce phénomène de l'autotomie, c'est un phénomène qui va caractériser la réaction à la souffrance physique ou à la souffrance psychique. On va comme renoncer à certains de ses pouvoirs, à certaines de ses attentes, pour vivre en quelque sorte avec un territoire réduit et un territoire doué de fonctions d'observation. Ferenczi parlera du clivage de la personne en une partie sensible, brutalement détruite, et une autre qui sait tout mais ne sent rien, en quelque sorte. Vous voyez ce phénomène de tentative d'auto-anesthésie. Auto-anesthésie qui n'est possible que si on subit soi-même une sorte de coupure, d'exil par rapport à soi. Alors, ce phénomène de clivage pourra s'exprimer dans l'inconscient, enfin, dit Ferenczi, sous forme de processus primaire, ou Ferenczi dit entre autres, ce processus primaire de refoulement est clairement exprimé dans les fantasmes et rêves où la tête, c'est-à-dire l'organe de la pensée, séparée du reste du corps, marche sur ses propres pieds ou n'est reliée au reste du corps que par un fil. Alors c'est étrange comme image, cette tête qui marcherait sur ses propres pieds. Bien, sur le plan de la souffrance psychique, c'est très souvent un équivalent de ça qui arrive. Une sorte de tentative de rationalisation ou bien une façon de préparer le récit, mais une façon d'abandonner des zones psychiques ou des zones corporelles. Alors ce phénomène de séparation, de divorce, on peut dire avec soi-même, est un des phénomènes qu'on pourra rencontrer d'une manière extrêmement fréquente. Et c'est là que la souffrance interne, subjective, disons, pourra se connecter avec un processus d'accouplement. Parce que cette façon de ne rien vouloir d'une partie souffrante de soi, la partie sensible brutalement détruite, pourra très bien se négocier dans une structure de couple. Alors, d'une manière assez fréquente, mais je ne dirais pas générale, on retrouve cette figure de couple où c'est un des membres du couple qui sera comme la conscience de l'autre et l'autre membre qui sera comme la sensibilité à vif. Et l'autre qui dira toujours « mais non, c'est pas grave » ou quoi que ce soit. Voyez, une façon de vivre cet autoclivage narcissique en distribuant les fonctions. Alors cette façon de travailler le clivage interne propre à la souffrance psychique en le retranscrivant dans un couple caractérise un des fonctionnements possibles du couple. Alors, c'est ce qui fait que la souffrance ne va pas rester uniquement chez celui qui a vécu tel épisode, mais va se trouver un porte-parole et rencontrer quelqu'un qui est pris dans une forme de souffrance profonde pourra être une sorte de salut pour certains, ou le contraire, trouver quelqu'un qui a souffert, mais qui est spécialisé dans la distance. Alors, dans la structure psychique telle qu'on peut l'observer chez Freud, d'après les livres qu'il nous a donnés ou d'après ses lettres, on voit que dans le couple que Freud imagine, c'est très souvent le masculin qui est caractérisé par la position de distance et d'exil. D'après le couple donné par Ferenczi, c'est lui qui serait supposé être la tête et la femme qui serait supposée être la souffrance à vif qui va représenter l'expérience douloureuse traversée par l'homme. Dans une lettre justement adressée à Ferenczi, au moment où Freud parle d'une semaine terrible où il a enterré à la fois un ami très cher et sa fille. Alors c'est là qu'il dit que la semaine a été extrêmement, extrêmement rude et il ajoute immédiatement « Ma femme est effondrée, moi je pense, la séance continue. » Donc lui se présente comme l'élément imperturbable qui continue, voyez, comme s'il était dans l'inchangé, et fait remarquer que l'écriture de « Au-delà du principe du plaisir », c'était ce qu'il était en train d'écrire, ça ne s'est pas interrompu un seul jour, en dépit de cette semaine où il y a eu mort de sa fille, mort d'un ami, ainsi de suite. Mais il y avait cette condition, il fallait qu'il puisse dire « Ma femme est effondrée ». Donc que la souffrance soit en quelque sorte localisée dans un des personnages du couple. Alors ce qui est, donc si on est attentif à cet exil de la souffrance, ce voyage possible de la souffrance, ou cette assignation à résidence, on peut justement lire différemment l'interprétation des rêves. Parce que dans le premier rêve dont j'ai parlé, la patiente qui éjecte son appareil, on peut penser qu'il y a un rapport avec une patiente et Mike Stein, une patiente de Freud, à qui Freud a fait subir une opération à la mâchoire, le chirurgien étant Fliss, l'ami de Freud. Alors, autour de l'interprétation des rêves, il est probable que c'est un texte qui va nous mettre sous les yeux un certain nombre de rêves, et où on va voir les effets d'écho et les effets d'éloignement, les effets d'exil d'une souffrance rencontrée par Freud. Alors, je vais commencer par lire le passage de l'interprétation des rêves où Freud nous donne l'événement qui probablement l'a le plus perturbé dans l'enfance. Je fais remarquer d'emblée qu'il ne nous donne pas l'ensemble de l'événement, qu'il faudra mettre bout à bout, disséminer dans l'ensemble de l'œuvre, fragmenter un ensemble de remarques pour compléter la scène, comme si l'événement avait été non pas uniquement lancé, jeté au loin, par terre, mais mis en morceaux. Alors, il y a certains éléments qui sont tout de même rappelés par Freud. Il y a un souvenir, un rêve, où dans le rêve, Freud voit quelqu'un, justement, qui a une mâchoire abîmée, mais c'est son fils. Donc, c'est le rêve du fils officier. Donc, il y a bien quelqu'un qui est souffrant, mais c'est son fils. Alors, Freud dit que c'est certainement une allusion à un souvenir pénible qu'il a eu. Il dit, le lieu, un office, donc une cuisine, sont des allusions indéniables à un accident qui m'a devant entre 2 et 3 ans. Je montais sur un escabeau dans l'office pour prendre quelque chose de bon posé sur une caisse ou une table. L'escabeau se renversa et me frappa de son arête derrière la mâchoire inférieure. J'aurais pu y laisser toutes mes dents. C'est un avertissement, c'est bien fait pour toi. Un mouvement d'hostilité contre le brave soldat. Freud passe directement du « c'est bien fait pour toi » adressé à lui-même. Et ça, je pense que ce passage est très intéressant. Freud nous montre bien que la première réaction au trauma, ce qui est très fréquente, c'est l'accusation de soi. Comme si dans le moment traumatique, on ne voulait pas être celui à qui il est arrivé, mais comme si on se mettait à la place du juge ou du parent qui vient dire « c'est bien fait pour toi ». Ça n'aurait pas dû t'arriver, tu ne devais pas te mettre là. Comme s'il était plus soutenable d'être l'accusateur plutôt que la victime. Alors immédiatement, Freud passe à l'idée d'un mouvement d'hostilité contre le brave soldat. Donc ça n'est plus à lui qu'il fait allusion, c'est le fils qui est vu ayant dans la mâchoire le risque d'une perte de dents. Alors il y a ce phénomène assez étrange, vous voyez, où le souvenir de la souffrance se trouve comme délocalisé, alors mis dans la filiation. Freud va rêver justement que c'est son fils qui lui apparaît, portant dans sa bouche et dans son visage sa propre blessure d'enfance. Mais comme s'il était impossible, comment dire, de se voir portant soi-même sa propre souffrance. Alors, soit il y a tentative d'anesthésie, mais s'il y a tentative d'anesthésie, il faut qu'il y ait une autre opération corrélative. Cette souffrance, on ne peut pas l'annuler, alors il vaut mieux la redécouvrir sur quelqu'un d'autre. Alors, effectivement, dans le début du même rêve, Freud commence par tenter d'attribuer sa souffrance à l'autre. Il dit, dans ce même rêve du fils officier, « Je dis à ma femme que j'ai une nouvelle pour elle, quelque chose de très particulier. » Elle prend peur et ne veut rien entendre. Alors, cette nouvelle, ce serait l'idée que le fils qui est officier a eu soit une blessure, soit est mort. Mais voyez, Freud se voit en rêve annonçant à sa femme une nouvelle qui lui fera de la peine à elle. Il ne se voit pas, lui, en rêve, comme quelqu'un qui risque d'en souffrir. Et c'est elle qui prend peur. Donc, voyez, ce qui est étonnant au niveau psychisme, c'est que le psychisme a un étonnant pouvoir de reconversion. Ça n'est pas un agent de retranscription. Le psychisme, ça n'est pas un archiviste. Il transforme, déforme, bouscule les rôles et justement va essentiellement transformer les expériences de souffrance. Alors ensuite, Freud, dans la suite du rêve, voit en quelque sorte son fils faisant des gestes analogues à ceux qu'il a fait lui-même dans l'enfance. Il monte sur une corbeille qui se trouve sur le côté, près d'une caisse, comme pour poser quelque chose sur cette caisse. Je l'appelle, pas de réponse. Il me semble qu'il a le visage ou le front bandé. Il arrange quelque chose dans sa bouche. Il y introduit quelque chose. Ses cheveux ont un reflet gris. Je pense, serait-il si épuisé ? Et a-t-il de fausses dents ? Avant d'avoir pu l'appeler à nouveau, je m'éveille sans angoisse, mais avec des battements de cœur. Mon réveil indique 2h30. Vous voyez, là encore, au niveau de la notation physique, c'est très précis. Ça n'est pas au niveau psychique que la peur s'inscrit, sans angoisse, mais c'est le cœur qui s'affole. Donc, comme si c'était le corps qui devait traduire, qui devait être le porte-parole d'un élément insoutenable. Alors, d'un côté, il y a le corps, de l'autre côté, il y a cette façon de jeter sa propre souffrance, alors non pas par terre, mais de la jeter sur le fils. Alors, un autre moment où Freud va faire revenir en quelque sorte ce souvenir d'enfance, eh bien, c'est au début du rêve très connu, du grand rêve initiatique, le rêve de l'injection faite à Irma. C'est-à-dire, il va rêver qu'il voit précisément une patiente qui va lui parler de sa douleur. Et on va voir comment Freud imagine, retranscrit en rêve, l'aveu de la douleur. Et lui dit, « Si tu savais comme j'ai mal à la gorge, à l'estomac et au ventre, cela m'étrangle. Je prends peur et je la regarde. » Ça, c'est un rêve, c'est le rêve de Freud. « Elle a un air pâle et bouffi. Je l'amène près de la fenêtre et j'examine sa gorge. Elle manifeste une certaine résistance, comme les femmes qui portent un entier. Je me dis, pourtant, elle n'en a pas besoin. » Alors, on retrouve ce phénomène, la peur d'avoir perdu toutes ses dents. Cette vision d'une bouche édentée ou d'un risque de bouche édentée, ça réapparaît à plusieurs reprises dans les rêves de Freud, mais ça réapparaît toujours sur un autre personnage. Alors, ce qui est d'étonnant, si vous voulez, au niveau de l'agir freudien, c'est qu'avec une des patientes, Emma Eckstein, patiente qui souffrait de maux d'estomac, Freud aura l'idée du fait de l'interprétation médicale donnée par Fliess, une corrélation entre les maux internes dans le corps et, soi-disant, les fosses nasales. Freud aura l'idée de faire opérer sa patiente par Fliess, si bien que sa patiente sera réellement opérée au niveau de la gorge, au niveau des dents, c'est-à-dire au niveau qui représente la zone douloureuse pour Freud. Donc, vous voyez, si on parle du phénomène de transfert, c'est vrai qu'il y a transfert du patient sur le psychanalyste, mais dans le cas de la souffrance, il y a tentative de transfert dans un autre sens. Comme si, pour métaphoriser, pour inscrire la souffrance, on ne pouvait la représenter, l'inscrire, qu'à la condition de l'inscrire sur un autre psychisme, donc qui permette en même temps de l'inscrire et de la renier. Alors, Freud va faire tout de même certaines allusions à cette blessure d'enfance, mais cette blessure qu'il a eue va se retraduire, va s'émietter en quelque sorte, confirmant avant coup, je veux dire, l'interprétation que Ferenczi donnera du trauma. On dira que le propre du souvenir traumatique, c'est de se trouver fragmenté, mis en morceaux. Donc fragmenté dans la mesure où on va être attentif à une série de personnages différents pris dans la filiation, soit des disciples, soit des enfants, soit des parents, soit des personnes rencontrées, chez lesquelles on va reconnaître comme un morceau de soi souffrant. Il y a une fragmentation. Alors même au niveau des souvenirs, ce souvenir violent chez Freud va se trouver aussi disséminé dans les textes. Et c'est ce qui fait qu'on risque de ne pas le reconnaître. Et Viviane Forrester est une de celles qui, dans La violence du calme, a mis bout à bout certains exemples de souvenirs, et tout en disant que l'interprétation des rêves est un monument d'oubli. L'expression est intéressante, mais il faut dire que tout psychisme qui a souffert ou qui a été traumatisé devient un monument d'oubli. Et c'est le corps qui va retranscrire certains éléments. Alors, je vais donner un passage où on va voir comment cette blessure oubliée va revenir en quelque sorte sur le corps de Freud. Il a un rêve où il voit un professeur borgne. Et le médecin qui l'a opéré, c'était précisément un médecin borgne. Je voyais une personne dont je savais qu'elle était le médecin de mon pays natal. Je parlai à ma mère de ce médecin, j'appris qu'il était borgne. Le professeur dont le visage se confondait dans mon rêve avec celui du médecin l'était aussi. Et il y avait 38 ans que je n'avais plus vu le médecin et jamais à ma connaissance je n'avais pensé à lui durant la veille. Bien qu'une cicatrice au menton eût dû me rappeler une de ses interventions. Et il faudrait faire remarquer que cette cicatrice au menton, il pouvait la palper chaque jour. Alors, quelle était cette cicatrice au menton? C'est précisément la trace laissée sur le corps. Alors, Viviane Forester fait remarquer que dans l'édition de l'interprétation des rêves, qui est consécutive au cancer à la mâchoire, Freud va faire disparaître cette notation de la cicatrice. Comme s'il avait été effrayé de voir que c'était son corps qui était devenu sa mémoire. Comme si une mémoire impossible à rassembler créait en quelque sorte des métastases, mais au niveau d'éléments du corps ou bien dans le psychisme des autres. Et par là, on voit un des caractères justement de la souffrance et la nécessité de réinstaurer la souffrance dans un circuit de destination. Je m'appuierai sur cette dernière idée où je reviendrai sur un passage du rêve dont a parlé Freud quand il voit son fils abîmé, son fils officier, où il commence à dire « Je l'appelle, pas de réponse ». Eh bien, la souffrance psychique se centre essentiellement dans ce phénomène de rupture des liaisons, de rupture des communications. Il n'y a pas de destinataire, il y a le sentiment que si on essaie de transmettre à une personne quelconque, l'autre n'est pas là, ou qu'on ne peut pas être là. Alors, si on instaure, si on situe la souffrance psychique, non pas simplement au lieu qui souffre, mais dans le rapport entre ce lieu et quelqu'un qui en est témoin, je veux dire que la souffrance psychique vient surtout dans cette rupture et que contrairement tout de même à un des remèdes qui est très souvent donné, apprendre à quitter, apprendre à couper le cordon ou bien dans cette façon de considérer l'autre en disant « il souffre, c'est son problème ». Dans une idéologie un peu individualiste forcenée, on peut dire qu'il y a tout dans cette idéologie individualiste pour intensifier les effets de la souffrance psychique. Parce que la réparation de la souffrance psychique ne viendra pas uniquement d'une sorte de prise de conscience de ce qu'on a vécu soi-même, mais elle va consister dans la réparation, elle va consister dans un rétablissement du lien où quelqu'un d'autre pourra être imaginé, pourra être représenté comme ayant entendu ce qui était vécu comme inhabitable et à la limite comme capable de l'habiter à la place de soi. Je m'arrêterai là-dessus.
J'aimerais d'abord vous demander de précision du livre de Viviane Forester que je n'ai pas réussi à retenir le titre. Violence et...
La violence du calme. La violence du calme.
Du calme, d'accord, merci.
Qu'un chapitre, c'est le dernier chapitre. Ça n'est pas entièrement sur Freud, c'est le dernier chapitre seulement.
Et le passage où Freud parle justement de la mémoire, si vous avez dit que vous allez utiliser la science des rêves.
Je ne comprends pas bien.
Le passage où Freud parle du fait que sa description de la mémoire. Non, vous ne voyez pas.
Bon. Oui, il y a plusieurs sites, mais il y a tellement de passages où il parle.
Non, mais c'est lui dont vous avez...
C'est ça, c'est dans l'interprétation des rêves. D'accord. À la fin... le chapitre 7, là où il parle des processus psychiques, toute la difficulté justement de l'appareil psychique vient pour lui de cette impossibilité d'inscrire ce qui est pénible. Et il ira jusqu'à dire il faut qu'un second système arrive à être un peu masochiste pour qu'on arrive à se complaire un peu dans une expérience de souffrance. Autrement, le psychiste sera aveugle et s'exposera toujours aux expériences pénibles, ne voudra retenir au fond qu'une leçon.
J'ai toujours été frappée qu'il y avait le mécanisme
Ah, on n'entend plus là.
De l'identification.
Attendez, là on a un petit problème.
De l'identification à l'agresseur décrit par Ferenczi. Mmh. Et au moment où vous avez parlé du fait que pour Freud, l'individu préfère être en position d'accusateur que de victime, ressemble énormément au mécanisme décrit par Ferenczi et qui est très différent de celui que sa fille a décrit dans les mécanismes de défense. Et je voulais vous demander comment comprenez-vous qu'aujourd'hui le phénomène de la victimologie, c'est-à-dire qu'au contraire, les gens se mettent dans la position de la victime.
Oui, votre question est très importante, là. C'est vrai. Mais on peut dire que là, comment dire, la décision d'adopter un statut de victime continue le processus dont j'avais un peu parlé d'assignation de la souffrance, en quelque sorte d'enfermer la souffrance dans un moment précis. Alors, je crois que pour comprendre ce processus, il faut intercaler un autre phénomène qui est l'apparition de la causalité. Comment en vient-on justement à chercher une cause? Alors, cette apparition de la causalité exigerait, si vous voulez, tout un développement pour être étudié. Freud l'a observé déjà dans le monde médical et il en a été étonné. Il fait remarquer que pour bien des malades, la certitude qu'il y a une cause à l'intensification de leur douleur, eh bien, cette certitude passe par l'attribution au médecin d'un pouvoir causal. Comme au départ, justement, c'est insoutenable d'être pur lieu de souffrance, il faut penser qu'il y a un autre lieu, là ce serait un travail un peu paranoïaque, qui détient les leviers de commande de la souffrance. Et avant de parler d'amour de transfert, Freud va parler au contraire d'un mouvement accusateur, alors qui va consister à attribuer au médecin, alors ça se passe aussi beaucoup aux États-Unis, s'il y a des gens qui vont mal, c'est à cause des médecins. Et au niveau psychologique, c'est très normal, je veux dire, d'éprouver ça. C'est la première forme que Freud a envisagée concernant le phénomène du transfert et qui peut être dans le prolongement de ce caractère insoutenable du lieu de la blessure. Il faut créer un autre lieu qui soit un lieu de maîtrise de la souffrance. Et évidemment, cet autre lieu va être créé de manière un peu fantaisiste, puisque c'est celui qui peut quelque chose pour la guérison, donc qui peut quelque chose pour l'atténuation de la souffrance, qui sera vu comme celui qui en même temps cause de la souffrance. Donc, vous voyez, il y a un phénomène de causalité et qui va lui-même passer par l'amour de transfert. Parce que celui qui sera vu comme cause de la souffrance, alors c'est par là que c'est important d'étudier ces phénomènes, comment dire, un peu comme dans un roman, dans un enchaînement de réactions. Parce que c'est le mécanisme accusateur de l'autre qui va soutenir aussi bien le renversement dans le phénomène amoureux. Parce que s'il y a un autre qui est vu comme pouvant être cause de la cessation de la souffrance, cet autre va être vu presque comme démiurge, comme l'auteur de moi-même. Et l'amour de transfert va être comme une autre version qu'on se donnera de la toute-puissance de l'autre. Mais les deux phénomènes, très souvent, fonctionnent en même temps. Et cette dimension accusatrice sera valable aussi dans la dimension amoureuse. Si on attend tout de quelqu'un, et si ça ne va pas, l'autre est nécessairement accusé. Donc, vous voyez, l'amour, le phénomène amoureux, pourra constituer l'une des façons de médiatiser au fond le phénomène de la souffrance en posant quelqu'un qui serait doué d'un pouvoir absolu.
Je voulais vous poser une question par rapport à la psychanalyse et les anorexies. Le hasard a fait qu'hier il y a eu une émission, je regarde très peu la télévision, et j'ai regardé hier, c'était l'anorexie avec les adolescentes. Et ce qui me frappe quand je pense à cette émission et ce que vous avez dit, c'est que ces adolescentes, elles parlaient presque sans corps. Et que j'avais un peu l'impression que quand elles s'adressaient aux adultes qui les entouraient, elles étaient persuadées que personne ne les entendrait. Mmh. Et qu'il y avait comme une obstination de leur part à ne pas vouloir être entendues.
C'est possible de donner l'interprétation que vous donnez. Je ne sais pas si c'est une obstination de leur part. On peut retourner le phénomène autrement. Il y a comme un vécu ou la conviction en elle que quelque chose n'a pas été entendu. Vous voyez, comme dans tout phénomène psychique, vous voyez, on peut l'interpréter par deux voies. C'est ce qui donne des écoles en psychanalyse. Hein. Soit d'une manière intentionnelle, comme si c'était la patiente ou l'anorexique qui s'arrange pour faire comme si elle ne pouvait pas être entendue. Bien, il y a l'autre voie rendue possible par Ferenczi, par Lacan aussi et par d'autres, comment dire, une partie de toute école là, qui va davantage insister sur ce qui a été subi dans l'enfance et sur les manques de communication. C'est très fréquent, je veux dire, dans une famille. Donc, vous voyez, la faute à qui on pourra, personne ne pourrait avoir la vision de tout le phénomène. Dans le rêve de l'injection faite à Irma, Freud répond en rêve à sa patiente. Si tu as encore des douleurs, c'est uniquement par ta seule faute. Alors, c'est un peu le point de vue pris d'abord dans la psychanalyse, hein, des paris, voir en quoi on y est pour quelque chose. C'est un des axes possibles. Pour ma part, je fais aussi fonctionner l'autre axe, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été l'attitude de l'autre, le discours de l'autre, les paroles de l'autre, pour qu'on se trouve même enfermé, au moins à montrer qu'il n'y a pas communication et à faire comme si on se retranchait, il y avait décollement total par rapport au corps. Ce que vous dites est tout à fait juste, vous voyez, mais ça laisse ouverte toute une série d'interprétations qui sont très liées aussi au vécu de la féminité dans l'anorexie, très souvent.
Oui, j'aimerais bien qu'on parle maintenant de l'enfant. Mmh. On a parlé de Freud avec l'interprétation des rêves chez l'adulte, etc. Pensez-vous qu'un enfant de 2 ans qui parle, qui dialogue, qui commence à dialoguer, puisse souffrir d'une souffrance, je me répète, souffrance psychique ?
Je pense que oui.
Comment pouvez-vous l'expliquer par rapport à un adulte?
C'est-à-dire, votre question est tellement vaste que je ne vois pas comment on pourrait dire que l'enfant de 2 ans ne peut pas souffrir de souffrances psychiques. Mais je ne suis pas partie d'une perspective où il y aurait séparation absolue. Parce que j'ai commencé tout de même par dire que la souffrance physique était elle aussi psychique. C'est-à-dire, il va parler... Dès qu'il y a phénomène d'adresse possible, il peut y avoir souffrance psychique de sentiment d'abandon. Ça peut venir extrêmement tôt. Alors, selon les points de vue et selon les lectures ou des parents ou les lectures médicales, c'est un des grands problèmes, poser la question de qu'est-ce qui est au principe de la souffrance. Est-ce que c'est un phénomène justement corporel qui relève du médical qu'il faut incriminer? Est-ce que c'est quelque chose qui a manqué ou qui a fait agression du côté psychique? Il y aura tout le temps les différentes voies d'entrée. Mais il paraît évident, du moins dans une perspective psychanalytique, si vous voulez, que la souffrance psychique peut commencer très tôt. Je ne suis pas psychanalyste d'enfant, mais je pense que n'importe quel psychanalyste d'enfant le dirait. Mais il faut tout de même faire très attention. Façon de dire que la souffrance psychique peut commencer très tôt, ça ne veut pas dire qu'il faut reverser au compte du psychisme toute manifestation de souffrance. On est chaque fois confronté à une énigme et très souvent il faut agir par plusieurs niveaux à la fois. Entendre ce qui se joue et entendre l'appel à plusieurs niveaux à la fois. À la fois le niveau corporel et le niveau psychique, qui est aussi un niveau de communication, de messages entendus.
On a parlé des personnes qui, comment dire, souffrent en elles-mêmes, ou bien qui ne semblent pas souffrir, mais qui souffrent à travers une autre personne. Mm-hmm. Je voudrais vous demander si la souffrance existe chez les personnes qui éprouvent du plaisir à faire souffrir d'autres personnes. Ça me semble être le pendant, le pendant du sujet.
C'est probable. Enfin, vous direz que c'est une souffrance qui caractérise tout à fait la position perverse. Ça n'est certainement pas la même souffrance. Je pense que la souffrance est atténuée, exilée, que ça suppose un certain suicide accepté, un certain suicide psychique accepté. C'est-à-dire que le lieu où ça sera vivant, et dans la souffrance c'est tout de même vivant, ce lieu-là, ce ne sera plus soi. Celui dans la négociation sadique, c'est comme si l'agent avait déserté ce qui en lui est organe de réception. Et il va agir comme un illusionniste pour manipuler l'autre, pour que ce soit l'autre qui éprouve ce qui aurait pu lui faire du mal. Donc, il peut y avoir, je dirais, presque comme une souffrance virtuelle. Mais vous voyez, une souffrance virtuelle, c'est comme une souffrance possible, mais avec tentative d'avortement et de délégation dans quelqu'un d'autre.
Monique Schneider, je vous remercie.
Je vous remercie aussi.